J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h25-30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, nos propositions littéraires de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 25e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B l'auteur rhodanien Stéphane Pétrier dans le deuxième roman Kiss the Monkey, est paru le 20 mai 2024. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu préfères le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on te présente?
Ah, je ne m'étais jamais posé cette question. Tout me va. Romancier, c'est bien parce que il y a vraiment l'idée d'écrire de la fiction, je crois. Donc romancier, très bien.
Romancier, ouais. Bien. Alors toi, tu avais quel rapport avec la lecture et l'écriture lorsque tu étais enfant et adolescent?
Alors, c'était pas le même entre la lecture et l'écriture. J'ai toujours, depuis que j'ai 7-8 ans, je crois que j'aime écrire des histoires, donc inventer des trucs. C'était les chansons déjà, mais aussi j'écrivais des petits livres, des trucs. Dès 7-8 ans, il y avait cette envie d'inventer. Par contre, la lecture, j'étais à l'adolescence un très mauvais lecteur. Je lisais les trucs qu'on me forçait à lire en classe, mais globalement, je me faisais chier. Et puis le déclic, alors il y a eu quelques livres déclic, mais surtout, je me suis retrouvé à 18 ans après le bac, j'avais besoin de gagner 2-3 sous, je me suis retrouvé pion dans un lycée. Et j'avais notamment les heures de surveillance de l'étude du soir qui se passait dans la bibliothèque. Et donc tous les soirs, j'étais pendant 2 heures dans une bibliothèque avec plein de livres à disposition. Et là, j'ai commencé à piocher plein de trucs. Et j'ai découvert la littérature vraiment à ce moment-là. Donc j'avais dit, ouais, 19 ans, on va dire. Et j'ai commencé à vraiment aimer lire à ce moment-là. Et depuis, je suis plutôt un gros lecteur. Je lis tous les jours. Ouais.
Donc toi, tu es depuis bientôt 40 ans le chanteur et compositeur du groupe lyonnais Le Voyage de Noz. Dès le début, tu as eu envie de raconter des histoires en chansons. Ou des chansons en histoire, mais bon, plutôt des histoires en chansons.
Ouais, il y a un moment, je me suis même dit que si ça n'avait pas été la musique, ça aurait été autre chose que j'y avais envie de raconter. Ça, je pense que ça aurait pu être le cinéma, je sais pas, mais voilà, il se trouve que quand t'as 15 ans et que t'écoutes du rock'n'roll, la musique, c'est le truc qui est évident, mais ouais, j'ai toujours aimé raconter. Je voulais que les chansons, elles racontent des histoires et que... Et qu'au-delà de ça, même que les albums donc, racontent des histoires, pas seulement des petites chansonnettes de 3 minutes où on a le temps de mettre 3 phrases, j'avais envie de m'étaler. Ouais.
Alors, même si le style du Voyage de Noz n'est pas du rock progressif, il s'en rapproche souvent. On pense inévitablement à ces albums concept des années 70 et même 80, je pense à... Tu disais toi-même The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis, d'Emmy Jacquet d'Ange ou de Miss Play Shadwood de Mary Lyon. On se rapproche du format du roman.
Ouais, je crois que c'est un petit peu la même chose. Et c'est vrai que quand je me suis mis à l'écriture de romans, donc un peu sur le tard, j'ai un peu, face à l'ampleur de la tâche, moi qui avais toujours été dans le format court, et là il fallait que je fasse au format long. Pour me rassurer, je pense que j'ai travaillé vraiment les chapitres comme si c'était des chansons, en fait. Et chaque chapitre de mes livres est un peu comme les chansons d'un album.
Alors, quelle similitude y a-t-il entre écrire une histoire pour une chanson et écrire une histoire pour un roman ?
Alors, sur le fond, moi, je pense que c'est la même chose, hein, que j'ai envie de dire les mêmes choses et que je les raconte différemment. Sur la forme, par contre, c'est très différent parce que la chanson, t'es dans l'efficacité immédiate et tu as quelques mots qui doivent être placés de façon particulière pour que ça fonctionne. Un livre, c'est un travail de longue haleine et il faut tenir la distance. C'est un peu comme une chanson, c'est comme si tu étais coureur de 100 mètres et puis tout d'un coup, avec le roman, tu deviens coureur de marathon. Donc, c'est pas du tout le même entraînement. Par contre, il y a des similitudes. Moi, je suis persuadé que le rythme est important. Et le rythme de la chanson, si tu te l'imposes dans la littérature, dans l'écriture de romans, ça crée quelque chose. Je lis beaucoup, mais quand j'écris, je relis beaucoup mes chapitres ou mes passages, des paragraphes à voix haute pour voir si le truc sonne, si le truc a du rythme. Parce que je crois que c'est très important.
Alors, depuis quand as-tu eu envie d'écrire un roman ?
Depuis très longtemps, mais j'avais un peu peur et puis j'étais un peu fainéant aussi, je crois. C'est tellement compliqué. J'écrivais des bouts de trucs, mais là, pareil, être bon sur deux pages ou trois pages, c'est facile. Mais après, il faut tenir la distance. Et ça, j'étais pas prêt. Et puis, je sais pas pourquoi je... Je ne sais pas comment j'ai passé le pas. Peut-être qu'il y avait une période où j'avais un peu plus de temps dans ma vie et j'ai commencé à... Puis après, c'est une sorte de drogue. Hein. Quand tu commences à écrire, il y a un moment où tu ne peux plus t'arrêter. Donc, ça a donné ce premier roman, Kill the Dog, qui était vraiment récréatif. Hein. Au début, je ne voulais même pas le sortir. C'est des amis qui m'ont dit qu'il fallait que je le sorte, mais j'avais fait ça vraiment juste pour moi et les copains.
Donc, on se prend facilement au jeu de l'écriture du roman.
Ah, on se prend facilement. Oui. Moi, c'est comme l'écriture de chansons. Pour moi, c'est vital. Hein.
Ouais.
J'ai jamais vu de psy de ma vie et je crois que ça en tient lieu quelque part.
est-ce que tu avais forcément dans l'idée de publier ce roman, premier roman ?
Non, le premier, non. Je te dis non, ouais, pas forcément. Et puis c'est des amis qui un jour me sont arrivés. Je leur avais filé, ils l'avaient adoré. Et eux, ils me l'avaient imprimé, ils avaient fait imprimer un exemplaire pour que je l'aie, comme ça, en disant, tu devrais le publier, tout ça. Et je me suis dit, bon, allez, on y va.
Alors, toi qui écris majoritairement la musique avant les mots,
ouais.
Hein, c'est facile de se dire qu'il n'y aura pas de musique autour des mots lorsque tu écris un roman.
Non, au début, c'est pas facile. Mais après, je pense que tu te crées une petite musique interne. C'est ce que je te disais tout à l'heure, quand l'histoire de lire à voix haute, je pense que tu es entraîné dans un flow qui fait que c'est comme, quelque part, c'est comme une chanson à l'arrivée.
Donc, ton premier roman, Kill the Dog, est paru en 2018 en auto-édition et on peut se le procurer sur le site d'Amazon. Tu n'as pas forcément cherché à être publié dans une maison d'édition.
Là, c'est... Non, à l'époque, j'ai envoyé dans 4-5 grosses maisons comme ça, mais sans y croire une seconde. Et je n'ai pas eu de retour, donc je me suis dit... Je faisais ça vraiment... Ma priorité, c'était la musique et ça, c'était vraiment... Le petit plus, et je ne voulais pas non plus m'investir comme un fou là-dedans. Donc, je l'ai sorti comme ça. Et il se trouve qu'il a eu pas mal de succès, que j'en ai vendu quand même beaucoup, en ligne ou à la sortie des concerts ou en faisant des dédicaces. Et parce que j'étais le chanteur de Voyage de Noz et que ça m'a aidé à le faire connaître un petit peu au début. Et le livre a eu relativement petit succès. Par rapport à ce que j'attendais, donc j'étais vraiment content. Puis les retours étaient vraiment bons. Et en même temps, je sentais que je pouvais faire mieux au niveau de l'écriture. Et donc, je me suis lancé dans un deuxième qui pour moi, est, au niveau purement de l'écriture, est plus réussi.
Le personnage principal de ce premier roman, le deuxième aussi, s'appelle Stéphane Pétrier. Comment écrit-on un roman qui raconte ses propres aventures, même si elles sont romancé.
Oui, il faut bien le dire, c'est quand même très romancé. J'aimais bien l'idée de, que le personnage porte mon nom, parce que c'est une façon de moi me mettre face aux situations, de ne pas botter en touche. Je voulais m'impliquer. C'est ce que je t'ai dit dans une autre émission sur le fait de se retrouver tout nu. Et c'est un peu la même chose. Quand tu ne te caches pas derrière un pseudo, et ben, c'est faut y aller, quoi, tu vois. J'avais envie de ce combat-là. Voilà, donc j'étais content que mon personnage s'appelle comme ça. Et puis c'est aussi pour moi une façon de mêler le vrai et la fiction. Je glisse des choses qui sont très moi par moment, avec des trucs qui sont complètement l'inverse de ce que je suis, ou des choses que je n'ai jamais faites, évidemment, que je rassure les lecteurs. mais il y a aussi des trucs que j'ai faits. Donc c'est une façon de dire aux gens, ben voilà, ça c'est moi, mais ça c'est peut-être pas moi, ou c'est peut-être des choses que j'aurais voulu vivre, ou que j'ai peur de vivre. Ou... Voilà, mon personnage, c'est à la fois moi et tout ce que j'ai peur d'être.
C'est forcément plus facile de se raconter soi-même ?
Non, je crois que ça dépend des gens. Il y a des gens qui détestent, je connais des auteurs qui détestent écrire à la première personne. Moi, c'est un peu le contraire. Je n'imagine pas du tout un livre où je vais être à la troisième personne.
Ce que tu écris dans tes romans, est-ce que c'est aussi ce que tu n'oserais ou n'oseras jamais faire dans la vie, comme si tu osais assouvir tes fantasmes ?
Ouais, il y a sûrement de ça. Ouais, il y a sûrement de ça. Mais pas que. Il y a aussi l'envie de déconner aussi, de faire rire et d'oser des choses que tu peux pas oser dans la vraie vie. La fiction, c'est ça, c'est se permettre des choses. Et avant tout, j'avais pas envie que les gens s'ennuient, et moi j'ai pas envie de m'ennuyer en écrivant. Donc l'écriture, enfin la création artistique, c'est de telles portes ouvertes qu'il faut y aller, quoi. Il faut foncer. Donc voilà, j'avais envie de pas rester dans un truc trop mainstream.
Après Kill the Dog, paru en 2018, est paru Kiss the Monkey le 20 mai 2024, deux jours après la sortie de ton premier album solo, L'Homme coupé en deux. C'est un hasard ?
Ouais, c'est un peu un hasard. C'était pas du tout prévu que ça sorte en même temps. Et puis, j'avais pas envie que les trucs traînent dans les placards. Et les gens qui me suivaient un peu pour le roman m'ont dit que le roman, ce deuxième roman, il a un côté aussi assez actuel par rapport aux propos, au contexte social de ce livre-là. Et qu'il fallait pas trop traîner pour le sortir. Donc on s'est dit, allez, on y va.
L'homme coupé en deux, c'est toi d'un côté le chanteur et musicien et de l'autre le romancier ?
Ouais, c'est entre autres ça. C'est mes différentes facettes artistiques, mais j'ai envie d'y mettre autre chose aussi. Je pense qu'on est tous coupés en deux entre ce qu'on vit et ce qu'on a envie de vivre, entre la passion et la raison. Y a 12 000 façons d'être coupés en deux dans nos vies. Et j'avais envie de parler un peu de tout ça. Ouais.
Dans le premier roman, Kill the Dog, il est question de ton double quelque peu paumé et qui se débat entre ses désirs et ses engagements, ses croyances et ses angoisses. Peux-tu nous raconter ce qu'il se passe dans Kiss the Monkey ?
Bon, c'est le même personnage qu'on trouve quelques années plus tard, qui est toujours aussi paumé. Toujours un peu con et un peu... Enfin, un peu con, non, il n'est pas con, mais c'est un personnage qui est lâche et qui se laisse porter par les événements, en fait. Qui ne prend jamais de décision et qui va se retrouver embringué dans des histoires abracadabrantesques, comme dirait notre ancien président. Que dire d'autre ? Ça se passe dans une France... un peu dystopique, mais pas si dystopique que ça, où j'imagine que le pays est parti un peu en guerre civile. Et lui se, se dépatouille au milieu de tout ça, sans vraiment avoir de, ni de conviction. Il n'a pas vraiment de conviction politique, il n'a pas vraiment de conviction éthique ou même amoureuse. C'est quelqu'un d'un peu paumé. Et puis, il va tomber sous le charme de, d'une starlette de télé-réalité qui passe et qui elle, déménage tout et va l'entraîner dans un truc un peu dingue.
Les deux titres de tes romans sont en anglais. Ce sont tes influences rock anglophones qui ressurgissent ?
Ouais, je pense. Ouais. Un petit côté. Et puis, parce que j'aime bien la littérature américaine aussi. J'aime bien l'écriture... Ah, et puis un autre truc, je déteste les titres des romans français, souvent. Ce côté pompeux des... les larmes jaunes du crocodile, le machin truc du bide. Enfin, tu vois, ces titres un peu pompeux, là... Souvent dans les romans français, ça se la pète dans les titres. Et je trouvais que Kill the Dog, un côté, toi, c'est un côté plus léger à l'américaine. Ça me faisait penser à John Fante, tu vois, des auteurs comme ça que j'aime bien et qui ont une écriture plus, je trouve, plus efficace et plus qui correspond plus à ce que j'aime aujourd'hui.
Alors le titre du roman Kill the Dog. Moi, m'a fait penser à Kill Bill. Et Kiss the Monkey nous rappelle... Alors, des fois, c'est n'importe quoi. Nous rappelle, moi, m'a rappelé Shock the Monkey et son clip.
De Peter Gabriel,
Donc, quand tu as une écriture plutôt cinématographique, alors, quel genre, quel film, quel réalisateur et réalisatrice t'ont influencé dans ta façon d'écrire, toi ?
Au niveau réalisateur ?
Ouais.
J'aime bien...
Parce que tu dis Kill the Dog, Kill Bill.
Oui, moi, j'aime beaucoup Tarantino, donc ça me va bien. Ouais. Je trouve qu'il y a. S'il y a un truc que je rapprocherais au niveau de l'écriture, c'est peut-être les frères Coen. Les films des frères Coen, j'aime bien ce qui se passe dedans. Ce côté un peu tout déjanté, mais où par moments il y a de la vraie poésie et des vraies choses importantes aussi. Voilà, ça ressemblerait peut-être à ça.
Quand tu écris des romans, tu as parfois l'impression d'écrire des scénarios de films ?
Non, mais on me l'a dit. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça ferait des bons films. Moi, j'aimerais bien. Je ne suis pas contre si ça intéresse quelqu'un. Volontiers.
Ouais. Alors, Kiss the Monkey est un road movie qui rappelle bien des films américains, je trouve. Alors, lequel t'a particulièrement influencé, par exemple ?
En film américain ?
Ouais. Des road movies déjantés, comme tu le disais il n'y a pas longtemps.
Thelma et Louise, des trucs comme ça. Ouais. À quoi ça peut me faire penser t'as des idées, toi ?
Non. Enfin, il y en a un paquet des road movies américains.
Ouais. Là, c'est en même temps très français, mon truc. Hein. On est vraiment... ça se passe en France.
Des road movies français, mais...
Il y en a un peu moins.
Un peu moins, ouais.
Ouais, j'ai pas d'idée précise de... de films.
Bien. Alors, Kiss the Monkey se passe dans une France, tu le disais, avec des manifestations des Français libres, qui dégénèrent en guerre civile. On pense forcément aux gilets jaunes, et pas uniquement parce que t'es nu sur le rond-point. Toute proportion gardée, au niveau des gilets jaunes, hein, je précise, ça aurait pu se passer comme tu le racontes dans ton roman.
Moi, je pense que ça va un peu se passer comme ça. moi je pense que...
Déjà à l'époque, en 2018, ça aurait pu.
Oui, ça aurait pu, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr, moi je crois qu'on n'est pas à l'abri d'un truc comme ça. Alors, c'est pas un roman qui a une prétention politique, hein, parce que mon héros s'avance pas trop dans tout ça. Mais par contre, il y a quand même des réflexions sur comment je vois ces choses-là et la difficulté d'être objectif avec tout ça, je pense. C'est compliqué.
Toi, tu aurais aimé que ça se passe comme dans ton roman ?
Alors ça, c'est un sujet qui est assez intéressant parce que j'en parlais récemment avec plusieurs personnes. J'ai quelque chose au fond de moi. Ça, c'est valable pour mes derniers albums qui sont aussi souvent des dystopies au niveau des textes et ce roman. J'ai quelque chose au fond de moi qui me fait dire que j'aimerais bien me cogner à un monde C'est quelque chose d'assez malsain, parce qu'à la fois, je n'ai pas envie de ça, pour mes enfants, pour moi. Et en même temps, j'aimerais bien... Je fais partie d'une génération dorée, cocoonée, qui n'a jamais connu vraiment la guerre, ou alors très loin, qui a toujours eu la croissance à peu près, un peu de crise économique, mais rien qui t'empêche d'avoir de quoi manger dans ton frigo et d'avoir du chauffage et de l'électricité. Et moi, mes parents ont vécu la guerre. Et ils ne sont plus là maintenant pour me la raconter. Mais je me suis toujours dit, qu'est-ce que j'aurais fait dans un monde comme ça? Comment j'aurais été? Est-ce que j'aurais été un lâche, un héros, un collabo, tout ça? Et il y a une petite voix malsaine au fond de moi qui me dit, putain, ça serait bien si ça merde, parce que là, tu serais obligé de te cogner un peu tout ça. Je sais que ce n'est pas bien, hein, mais... Voilà, donc comme je n'ai pas vraiment envie que ça arrive pour de vrai, je le mets dans mes chansons et dans mes romans.
On parlait de guerre civile, ne s'agirait-il pas plutôt de révolution ?
Oui, ça sent la révolution, à part que mon héros n'a pas l'air de savoir vraiment qui sont les gentils, qui sont les méchants dans tout ça. Et où je pense que mon héros, il a un peu peur de se faire niquer, quelle que soit l'issue de la révolution. Et je t'avoue que, par moments, moi aussi.
Alors, les Français libres s'attaquent à tous ceux qui représentent le pouvoir et l'argent, si je ne me suis pas trompé. À force de ne pas partager les richesses, on en arrive forcément à de telles extrémités.
Absolument. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu veux que je développe ?
Non.
Non, bah oui, voilà. Que dire ?
C'est une suite logique.
Que dire d'autre ? Oui, c'est... Voilà, mais je crois que c'est trop tard.
Il n'est jamais trop tard, l'espoir fait mieux. L'espoir, c'est l'hiver, tu vois. Ouais. Tu vois, il n'est jamais trop tard. Tu vois. Alors, dans Kiss the Monkey, on double à la cinquantaine, est divorcé, père défaillant et tombe amoureux de Cindy, dite Cindy Rella, chanteuse et vedette de télé-réalité sans filtre, qui partage sa vie avec Brad Pitt, son Ouistiti pris à pic. Entre un adolescent attardé et une midinette un peu folle, ce sont presque deux opposés qui s'attirent. Qui est le plus fou des deux ?
Ça, je ne sais pas. Mais qui est le plus sage, par contre ? Je me demande si elle, finalement, n'est pas plus sage dans ce qu'elle raconte, même si elle a l'air un peu con au début. Je ne sais pas. Il y a plein de questions qui restent ouvertes à la fin de ce livre, hein, et que j'ai envie de laisser ouvertes. En tout cas, il n'y a pas de... J'essaie jamais de... Comment dire de... Mes personnages, ils ont tous des énormes défauts et des énormes qualités qui, j'espère, les rendent attachants. Il n'y a pas trop de jugement. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai du mal à faire tomber le couperet et à être très dur avec les gens. Avec les gens, pas avec les systèmes.
Alors, tu évoques aussi les ravages que peuvent causer les réseaux sociaux. Hein, et la starlette ne s'en prive pas pour en user et en abuser. Il pourrait causer une guerre civile, voire une révolution, ces réseaux sociaux ?
Bah, ils sont déjà en train de... Aux États-Unis, ils ont déjà creusé un fossé qui va forcément entraîner le pire, à mon avis. Donc oui, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est une catastrophe qui enferme les gens dans leur petit monde d'idées et qui coupe tout dialogue avec l'autre. Donc oui, je crois que c'est déjà fait.
Le personnage de Cindy, starlette de télé-réalité, est à l'opposé de ce que représente pour toi la musique, enfin j'espère.
Ouais.
J'espère. Tu me rassures. Comment peut-on être attiré par ce genre de personnage très superficiel et un genre, la télé-réalité, qui a fait beaucoup de mal à la chanson ?
Dans mon premier roman, mon héros, donc Stéphane Pétrier, est nul en musique. Par exemple, il a essayé de monter un groupe avec des potes, puis il s'est fait jeter du groupe parce qu'il était trop mauvais. Et là, mon héros, il tombe amoureux d'une chanteuse de télé-réalité. J'aime bien c'est une façon de brouiller les pistes. Et puis, en même temps, ma chanteuse de télé-réalité, toute pourrie, là, on comprend au bout d'un moment qu'elle chante vraiment très bien du Billie Holiday, par exemple. Et que c'est merveilleux quand elle chante. Donc, là aussi, c'est pas tout blanc, pas tout noir.
Ton double est attachant, mais aussi pathétique.
Oui.
Hein, il est fatigué par cette société qui ne lui ressemble plus. C'est ça aussi le passage à la cinquantaine pour un homme. On perd ses espoirs, ses illusions.
Je pense qu'on en perd, mais contrairement à mon héros, je pense qu'on peut se raccrocher à. Il faut se raccrocher aux belles choses. Il y a quand même plein de belles choses, donc il faut se raccrocher à ces belles choses. Mais après, c'est vrai que... Moi, aujourd'hui, je suis complètement incapable de m'engager politiquement. Par exemple, c'est une chose que j'aurais voulu faire à une époque où j'avais commencé un peu à faire. Oui, je suis désabusé par plein de choses. Ce qui ne veut pas dire que j'ai perdu mes idées profondes, mais... Par contre, j'ai perdu foi en les gens qui peuvent les défendre.
Alors, ton personnage a aussi un rapport avec la religion qui est à l'opposé de celui de son fils et du compagnon de son ex-femme. Alors, eux se rattachent à Dieu. Alors, c'est comme si ton double était une âme perdue et qui, surtout, n'a pas envie d'être récupéré.
Ouais, mon héros, il déteste les curés et tout ce qui va avec. Et voilà, il est confronté à tout d'un coup son fils qui a 10 ans et qui veut devenir prêtre. Et donc, ça lui pose des problèmes. Et donc, ça lui fait se poser des questions. Et voilà, donc j'avais envie, là aussi sans jugement, parce que moi, je suis complètement athée, anticlérical. Et en même temps, j'ai des amis merveilleux et intelligents qui croient en Dieu. Donc, ça te questionne forcément. Mmh. Ces gens, ils sont intelligents et ils croient en truc que toi, tu trouves absurde. Comment juger ça, tu vois? Donc voilà, j'essaye de creuser un petit peu ça avec mes mots. Là aussi, sans prétention, hein, mais...
Alors, lorsqu'on écrit et publie des romans, hein, on a envie de les partager avec son public.
Ouais.
Tu es à l'aise, toi, avec dans ce genre d'exercice, toi qui as l'habitude de te montrer sur scène depuis plus de 40 ans, enfin, depuis un petit peu moins de 40 ans, pardon, et de faire des dédicaces, des albums du Voyage de Noz, c'est pareil pour toi?
Ouais, j'aime beaucoup les rencontres, j'ai fait pas mal de rencontres, entre guillemets, littéraires, là, ouais. Dans des cafés ou dans des librairies, et c'est vraiment, c'est passionnant. Échanger avec les gens là-dessus, c'est passionnant, ouais. J'aime beaucoup ça, je suis assez... bavard.
Alors, je le disais, tu as sorti ton deuxième roman, Kiss the Monkey, deux jours avant la sortie de ton premier album solo, L'Homme coupé en deux. Tu essayes toujours de lier les deux, à savoir un concert acoustique et une séance dédicace du disque et du roman?
Quand je peux, oui. Quand je peux, c'est bien. Et puis, il y a souvent aussi des liens entre certaines chansons et les romans. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, j'aime bien.
Les libraires sont friands de ce genre d'exercice, à savoir le concert et la rencontre dédicace?
Il y en a, oui. Ouais. C'est plutôt, ils sont plutôt clients. Ça amène un public un peu mélangé aussi, entre les littéraires et les rockers. C'est pas mal.
Le concept de lecture musicale pourrait-il faire partie de tes prochaines envies?
Lecture musicale, comment tu vois ça?
Comment je le vois? Bah, comme Gaël Faye a pu le faire, il amène son guitariste, il lit les passages de son livre et puis sont illustrés par de la musique, tout simplement. Parfois, c'est ça, une lecture musicale.
Donc les mots avec la musique derrière, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Si ça a du sens et que la musique n'est pas gratuite derrière, bien sûr, ouais, pourquoi pas. Ouais.
La suite des aventures de Stéphane Pétrier en roman sont prévues?
Ouais, je commence à griffonner des trucs. Ça sent le triptyque, oui. Forcément, il va y avoir un troisième animal dans un troisième volume.
Bien. Tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes. couverture, nous cherchons la même aventure sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties, les propositions littéraires et les dates des prochaines séances dédicaces. Stéphane, quel est ton dernier coup de cœur littéraire?
Oh là, mon dernier coup de cœur littéraire, ouais. C'est un truc qui n'est pas du tout récent. Hein. Tu veux dire un truc qui est sorti récemment?
Non. Oh ben non.
J'ai lu les deux volumes d'un truc, je ne me souviens même plus de l'auteur, mais c'est un truc très connu qui s'appelle Sinoué l'Égyptien. C'est un auteur scandinave et c'est un truc qui se passe dans l'Égypte du Moyen Empire et c'est merveilleusement écrit, passionnant. Et je ne m'y attendais pas, j'ai pris une grosse claque avec ce truc. Donc Sinoué l'Égyptien, voilà.
Bien. Côté proposition littéraire et de la quinzaine, alors notons le polar de Boris Ciotto, Le secret de l'ours aux éditions Les Presses du Midi, le livre de Madani Alioua, So long Marianne, Les Glières, 1944-1968 aux éditions L'Harmattan, le roman de Laurent Guillaume, Dame de guerre aux éditions Robert Laffont, le livre de Christophe Thierry, Une journée presque ordinaire, le roman de Carole Roman, Les enfants d'Erasme aux éditions de l'Astronome, le roman de Maxime Girardeau, Jetement aux éditions Istia et compagnie, le livre d'Annie Jacobsen, Guerre nucléaire, un scénario aux éditions de Noël, le roman de Robert Poby, L'invisible aux éditions Point, le livre d'Olivier Villepreux, Samy Moubi et Frédéric Bernard, Débordement, sombres histoires du football, 1938-2023, aux éditions Anna Moza, et le roman de Nathine Matheson, Le châtiment des fidèles aux éditions Point. Pour terminer l'émission, les dates de séances de rencontres et de séances dédicaces. Stéphane, as-tu des rencontres et des séances de dédicaces dans la région proche à annoncer?
J'ai rien annoncé de ce type, mais je voudrais juste rajouter dans les bouquins, dans la liste que tu as donnée, ouais. Il y a un livre qui sort ce mois-ci, qui s'appelle Les Noces d'Émeraude, écrit par Laurent Cachard.
Effectivement.
Écrivain, c'est toi
qui sort au mois de janvier, ouais.
Voilà, qui sort même, je crois que tu peux le commander là avant les fêtes.
Ouais, mais sorti, a priori, il aura du mal à arriver avant, je crois.
Ah. Ouais, ça va être compliqué. Et donc, il raconte c'est plein de nouvelles consacrées au voyage de Noz. Une grande interview que j'ai pu faire avec Laurent Cachard. Et puis plein de petites chroniques qu'il avait réalisées sur le groupe toutes ces dernières années. Ça, et avec des très belles photos de Stéphane Tabouret. Donc voilà, ça c'est un.
Ça vaudrait une invitation. Le voyage de Noz, Stéphane Pétrier,
et Laurent Cachard,
au terme des prétentieux,
ouais.
Roman de gare, ça serait pas mal. Hein
ouais.
Donc moi, au niveau des séances dédicaces, il en reste trois avant la fin de l'année. Le samedi 14 décembre, au MacPress, à Amberieu-en-Bugey, il y a Olivier Petiot de 10h30 à 16h30. Et lui, il sera à l'âne sans queue, dans le premier arrondissement de Lyon, de 19h à 21h, toujours le samedi 14 décembre 2024. Et le dimanche 15 décembre, un de nos chouchous chez nous, à l'espace culturel Leclerc à Bénaud, c'est Gérard Sarian. Voilà. Eh bien, Roman de gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Stéphane Pétrier, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de gare.
Merci Michel.
Rappelons que ton deuxième roman, Kiss the Monkey, est paru le 20 mai 2024. On peut se procurer où? Et sans oublier ton premier roman, Kill the Dog, paru en 2018.
Les deux sont disponibles en ligne sur Amazon, classique. Tu peux le commander facilement.
On peut suivre ton actualité sur Internet via les inévitables réseaux sociaux?
Absolument. Facebook, le Facebook du Voyage de Noz, le Facebook de l'homme coupé en deux, et puis mon Facebook personnel, et puis Instagram également.
Ok. Le prochain invité de Roman de gare, le jeudi 26 décembre 2024, au téléphone sera la romancière nordiste de naissance et iséroise de cœur, Ophélie Cohen. Elle nous présentera son troisième roman, Sorginac, paru le 23 novembre 2024 aux éditions, le 12 novembre 2024 aux éditions IFS et dans la collection Phénix Noir, un thriller aux notes culturelles et historiques au pays des Sorginac, le nom des sorcières du Pays Basque. Voilà. Et bien Stéphane, bonne chance pour la suite de tes aventures de romancier et de chanteurs.
Merci beaucoup.
En solo ou avec le voyage de Noz. Bonne séance de dédicace. Et puis bon concert. Et puis à bientôt sur Radio B.
À bientôt.
À bientôt.
Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close, qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles.